Bonsoir à vous, je suis ravie de vous retrouver comme tous les lundis, 22h, 23h, j'espère que vous allez bien. Les Bonnes Feuilles à Croquer invitent ce soir El Behja Sari. Médecin à la retraite, elle vient de commettre son tout premier roman inspiré de faits réels, Le Pantin Rêveur, paru aux éditions d'Alimène. El Behja Sari, bienvenue à vous, je suis très heureuse de vous rencontrer.
Moi aussi madame, très heureuse d'avoir été invitée par vous et d'être écoutée par pas mal de lecteurs.
Alors, l'héroïne de votre roman s'appelle Bouba, Bouchra de son vrai nom. Sa vie va être très compliquée, sa vie va être parsemée d'embûches. Vous l'avez croisée dans la vraie vie, n'est-ce pas, El Behja?
Oui, j'ai eu à la croiser et à écouter son histoire. Et son parcours m'a tellement touchée que j'ai cru bon de le coucher sur du papier pour lui rendre hommage et d'un autre côté pour envoyer un message à notre jeunesse. Parce que nous sommes toutes des mères de famille et nous n'aimerions pas qu'une de nos filles ou une de nos proches tombe dans un panneau ou un piège pareil.
Exactement. En tout cas, vous utilisez la voix narrative. Bouba parle donc à ses lecteurs, elle nous parle. Elle a 12 ans lorsque nous faisons sa connaissance. Elle vit avec sa famille dans un village sur les hauteurs de Batna. Elle va à l'école, elle travaille bien, sauf que sa scolarité va être interrompue du jour au lendemain.
Une petite jeune fille, sans problème, qui a vécu dans la montagne, une vie saine, absolument saine. Elle a été à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'au moment où il fallait rentrer au collège. Et là, le papa s'est interposé en lui disant que c'était fini pour elle, qu'elle devait rester à la maison. Et pourquoi donc? Pour aider sa maman, afin de devenir une bonne épouse plus tard et une bonne femme d'intérieur. Contrairement à ses frères, qui devaient aller à l'école parce qu'ils devaient absolument étudier pour avoir des situations, devenir des gens respectables.
Et elle est un petit peu dans la contestation, elle essaye de résister, elle dit à son père, s'il te plaît papa, je voudrais étudier comme mes frères, et lui il lui dit, non tu peux pas, Bouba, eux ce sont des garçons. Et alors, lui dit-elle, et alors, elle résiste.
Elle résiste, mais sans grand résultat, parce que le papa a besoin a une préférence pour les garçons. Il en a déjà un, qui est l'aîné de Bouba, et il y en a deux autres qui viennent par la suite, et il préfère avoir des garçons solides. Des héritiers solides qui puissent un jour ou l'autre prendre sa relève dans les champs ou ailleurs. Hein.
C'est pas parce qu'il n'aime pas sa fille, c'est parce que il est dans la tradition. Parce qu'elle dit qu'il avait beaucoup d'affection pour elle.
Oui, c'est un conservateur, un conservateur qui a ses idées, c'est un agriculteur, il élève aussi le bétail, oui. Et il est constamment dehors, il aimerait que sa fille suive le même chemin que sa maman, qu'elle reste à la maison, et puis qu'elle apprenne toutes les tâches ménagères, etc., etc.
Qu'elle se prépare à son métier de future femme. Au foyer, de maman.
Voilà, c'était son souhait.
Oui, et elle rêvait parce qu'elle voulait faire quelque chose de sa vie. Elle voulait étudier, c'est-à-dire qu'elle aimait lire, elle aimait écrire.
Elle est restée sur sa faim.
Oui. Et ça va lui coûter cher à la fin. On verra ça un peu plus tôt. En tout cas, la discussion est close. Et le papa lui dit, je ne veux plus entendre parler de ce sujet.
Il avait un sale caractère.
Et ce qui est intéressant dans cette histoire, en dehors de cette histoire, vous racontez, c'est que vous décrivez le monde rural, les coutumes et les traditions. Par exemple, en page 21, vous nous parlez du père de Bouba qui est agriculteur et éleveur, et vous évoquez une pratique ancestrale, la twiza, qui se renouvelle chaque année lors des campagnes des moissons-battage. Ça atteste de la solidarité et de l'entraide entre les villageois, la twiza.
La twiza, d'ailleurs, oui, c'est une pratique bénévole. Oui. La plupart des habitants se regroupent au moment des gros travaux. dans les champs, et chacun apporte sa contribution, et puis en même temps ça crée des liens entre tous les gens du village. Ils apprennent à se connaître, ils mangent ensemble, ils partagent des cafés ensemble. C'est très convivial, c'est très sympathique, et c'est ce qui a d'ailleurs donné l'occasion à son père de connaître sa future femme, qui était venue un jour distribuer du café et des beignets chauds. Bon, ici, ils se sont vus une première fois, leurs regards se sont croisés sans aller au-delà.
Oui. Et ça se passait comme ça, dans le temps.
Voilà, au début, c'était comme ça.
C'est le regard.
Oui. Et lors d'une occasion qui s'était présentée pour refaire la toiture du patriarche du village, le père avait été un peu plus audacieux et ils avaient échangé deux ou trois mots qui avaient suffi à son père pour
tomber amoureux.
Pour tomber amoureux.
Voilà. Et voilà, il n'y avait pas Facebook à l'époque.
Voilà. C'était le début d'une belle histoire d'amour qui est restée sans rides jusqu'à la mort du papa.
Jusqu'à la mort du papa, on verra tout à l'heure, des suites de la maladie d'Alzheimer. Alors, El Bachassari, vous évoquez également le travail des femmes, et ça c'est vraiment excellent.
Oui.
Vous dites qu'elles excellaient dans la confection de poterie et de tapis. Ces femmes avaient la responsabilité également de transmettre un savoir-faire séculaire consistant à initier les jeunes filles à la technique, à la technique de la filature des tapis.
Des télis.
Des télis et des tapis, des couvertures, des coussins et musettes à grains. C'est très intéressant tout ça.
Oui, les femmes sont dès leur jeune âge habituées aux gros travaux.
Oui.
C'est des femmes qui ne rechignent pas au travail, qui se donnent à fond d'abord pour la maison, parce qu'elles pétrissent leur pain directement et qu'elles font cuire dans des fours traditionnels.
Oui.
Elles s'occupent d'un poulailler, elles s'occupent des petits animaux qu'elles élèvent, des clapiers, etc. Comme la maman de Bouba, elle avait un petit jardinier devant sa maison, elle cultivait ses plantes aromatiques là, qui lui permettaient d'avoir tout sous la main lorsqu'elle faisait la cuisine. Après, elle s'adonnait au tissage, parce qu'il fallait aussi mettre un petit peu d'argent dans la famille. Donc, elle faisait des choses magnifiques. Elle faisait des rachabillettes, elle faisait des burnous, elle faisait un tas de choses, des œuvres d'art qu'elle vendait directement aux commerçants dans le village. Ou alors qu'elle vendait sur place, parce que les gens la connaissaient et venaient acheter sur place, parce qu'elle les vendait moins cher que les commerçants.
Voilà, les femmes donc participaient à l'argent du ménage.
Oui.
Et vous écrivez que pratiquement toutes les femmes maîtrisaient aussi l'art de la poterie. On en parlait il y a quelques instants.
Oui.
Il leur arrivait de se regrouper entre elles pour confectionner toutes sortes d'objets en terre cuite qu'elles confiaient une fois terminées aux hommes pour les écouler les jours de marché. N'est-ce pas?
Une poterie tout à fait spéciale à la région,
avec
des dentelures, des bosses en relief, et qu'elle couvrait après d'un vernis à base de résine de look, comme on appelle, il s'appelle look, pour pouvoir les rendre alimentaires, pour pouvoir s'en servir dans la cuisine au quotidien.
Savoir-faire des femmes, là on est dans la région de Batna. En tout cas, la mère de Bouba fredonne des chants du terroir, transmis de génération en génération. Vous dites à l'image de Aïssa Djelmouni, ce chantre des Aurès qui se produisit sur la scène de l'Olympia à Paris en 1937. C'était le premier Algérien à s'être produit dans cette scène mythique.
Bouba a été bercé par les chants de Aïssa Djelmouni, qui a une voix splendide, qui a chanté dans la région et qui a été le premier à chanter en arabe et en berbère, et qui a eu le privilège de transporter notre culture au-delà des frontières, c'est-à-dire à Paris sur la scène de l'Olympia, et en 1937. Et il était tellement aimé dans la région que lorsqu'il est mort, tous les magasins ont baissé rideaux, et que son flûtiste, son flûtiste qui jouait, qui avait l'habitude de jouer avec lui, a cassé sa flûte, se jurant de ne plus en jouer désormais.
Voilà, c'est aussi l'histoire de l'Algérie que vous nous racontez à travers votre roman, Le Pantin rêveur, et l'histoire du patrimoine. Vous parlez aussi du mariage, et vous dites que c'était l'obsession des mères, qu'elles aient des filles ou des garçons. L'important, c'était de leur trouver la bonne personne. Page 33, les chuchotements et les supputations matrimoniales dans l'intimité de nos maisons allaient bon train. C'était important de trouver le bon gendre ou la personne qu'il faut, quoi.
Oui, parce que les filles ne sortaient pas, les garçons ne sortaient pas aussi, il n'y avait aucun contact entre les deux sexes, donc c'était les mamans qui étaient investies de la responsabilité de trouver la bru qu'il fallait. Donc c'était elles se regroupaient entre elles et elles discutaient, chacune y allait de son commentaire, la fille d'un tel est mieux, chacun voyait le mariage de son futur fils à sa façon.
Ça chuchotait de partout, c'était des messes basses, on essayait de tirer le gros lot.
C'était des soirées entières qui étaient
destinées
à ça.
On se basait aussi sur le physique.
Oui, oui.
Surtout pour les filles. Hein.
Oui, il fallait que la fille soit surtout robuste.
Robuste pour pouvoir travailler, pour pouvoir porter les bébés.
Et avoir un bassin suffisamment large pour pouvoir avoir plusieurs grossesses. Donc les critères étaient différents.
Eh ben oui, de ce qu'on fait maintenant.
Où on demande
les planches
à la fille soit
à pain, c'était pas intéressant.
Qu'elle soit élancée.
Oui,
oui. Voilà.
Ensuite, il y a cet exode. Bouchra a juste 15 ans, hein, lorsque la famille s'agrandit, déjà avec la naissance d'un petit frère qui s'appelle Bilal. Cet événement n'est pas anodin. Hein. Parce qu'il va y avoir l'exode à la suite de la naissance de Bilal. Bilal qui a une santé fragile, il est asthmatique. Et alors, la famille doit déménager en ville. Pourquoi ? Parce que pour être à proximité de l'hôpital.
Oui, parce qu'il faisait ses crises en nocturne, en montagne, et il fallait louer un taxi, il fallait courir à l'hôpital pour le mettre sous oxygène, etc., etc. Ça causait des frais, bien sûr, au papa. Donc, la mort dans l'âme. Les parents ont décidé de descendre plus bas dans le village où ils étaient à proximité de l'hôpital c'était pour la santé, pour sauver la santé de
du Bilal. Petit de Bilal. Et là, c'est vraiment un changement radical pour toute la famille. Tout le monde
ça a été dramatique voilà. Pour eux. Ils avaient l'habitude, le papa avait l'habitude de vivre au grand air, de cultiver ses terres, d'avoir ses amis.
Son bétail.
Voilà,
aussi.
Son bétail. Il partait en transhumance avec ses amis. C'était une invasion extraordinaire pour lui. Et surtout que le retour de cette transhumance, quand il ramenait les nouveau-nés qu'il avait eu pendant du troupeau qu'il avait eu pendant son absence. Donc c'était des événements qui étaient extraordinaires pour lui. La maman, elle avait ses amis, avec lesquels elle avait l'habitude de rouler le couscous, d'aller aux fêtes, de rencontrer. L'une d'elles, elle l'avait même accouché pour un de ses fils. Donc, elle avait laissé tout ça derrière. Et puis, Bouba aussi, qui a abandonné la campagne. Elle avait l'habitude de courir dans la campagne, de sentir les odeurs, d'entendre le bruissement de l'eau sur les cailloux, d'une petite rivière juste à côté de la maison. Elle était complètement déphasée, mais c'était le prix à payer
pour sauver la santé de Bilal. Voilà, vous parliez il y a un instant, Bajassari, de la maman de Bouba qui supporte mal sa nouvelle vie dans une grande ville. Oh, vous imaginez, elle passe de cette nature, de la montagne à la grande ville. Elle se confine dans une maison où elle se sent à l'étroit, elle est complètement perdue.
Oui, elle connaît personne d'abord. Et puis, elle est indisposée par les klaxons qu'elle entend, par le brouhaha des gens qui passent sous sa fenêtre, par les charrettes qui passent avec le grincement de leurs roues, et les commerçants qui vendent leurs marchandises à la criée, la pollution des transports en commun, tout ça l'indispose terriblement. elle regarde aller derrière, elle épie tout ça derrière sa, sa la fenêtre de la maison, et elle se demande qu'est-ce que je fais là. Et en plus, en face de la maison, il y avait une école qui libérait les enfants, qui criait, qui sur le trottoir. Donc elle était vraiment dépassée. Elle n'arrivait pas à s'adopter, à s'accommoder à cette nouvelle vie. Et puis surtout, le papa n'avait pas eu le temps de lui installer sa sedaya pour commencer à tisser. Donc ça, c'était dramatique. Elle le broyait du noir. Elle disait, je l'ai laissé tout à fait en haut, je l'ai plus. Oui. On aurait dit qu'elle parlait de quelqu'un, d'un être cher qu'elle aurait abandonné.
Là-haut, elle a laissé, comme vous avez dit, son métier à tisser, mais pas que. Il y a aussi, elle a confié ses poules à des cousines.
Voilà. Tout ça là. Elle vit très mal ce changement. Elle vit très, très, très mal. Très, très mal.
Nous allons continuer dans quelques instants à feuilleter les pages de votre roman, El Bahja Salé. On va marquer juste une pause musicale et on revient. One day your story will be told. One of the lucky ones who's made his name. One day they'll make you glorious. Beneath the lights of your deserved fame. And it all comes round. Once in a lifetime, like it always does. Everybody loves you 'cause you've taken a chance. Out on a dance to the moon. Too soon. They'll say, told you so. We were the ones who saw you first of all. We always knew that you were one of the brightest stars. One day they'll tell you that you've changed. Though they're the ones who seem to stop and stare. One day you'll hope to make the grave before the papers choose to send you there. And it all comes round once in a lifetime, like it always does. Nobody loves you 'cause you've taken a chance. Out on they'll say, told you so. We were the ones who saw you first of all. We always knew that you were one of the brightest stars. They told you so. We were the ones who saw you first of all. We always knew that you were one of the brightest stars. Vous êtes toujours dans les bonnes feuilles à croquer. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Et nous sommes en train de lire Le Pantin Rêveur, très très beau roman d'El Bahja Salé, paru récemment aux éditions d'Alimen. Donc nous découvrons cette famille qui au début vivait sur les hauteurs de Batna, dans la montagne, et qui doit donc changer d'adresse, aller vivre en bas, c'est à Batna ville. Et ce changement est vraiment dramatique pour toute la famille, parce qu'il y a aussi le papa qui va perdre son boulot. Il peut plus exercer son métier d'éleveur de bétail. Et bon, au début, ils vivent de leurs économies qui fondent comme neige au soleil. Et puis après, il va devoir se réorienter. Il va louer une petite boutique. Il va apprendre le métier de cordonnier.
Donc le papa qui vit aussi très mal cette nouvelle transplantation à la ville va se dire, il faut quand même, j'ai quand même cinq bouches à nourrir, il faut absolument que je me retrousse les manches et faire quoi. Lorsqu'il était jeune, il avait assisté à un oncle qui était un cordonnier hors pair et qui faisait des chaussures sur mesure à certaines personnes de l'entourage, comme le bijoutier, l'instituteur, le maire, qui voulait pas acheter des chaussures, qui voulait pas se chausser avec des chaussures qui se vendaient dans les magasins et qui allaient faire des chaussures sur mesure. Donc il avait quelques notions de cordonnerie. Mm-hmm. Il s'est dit pourquoi pas louer une petite échoppe et puis s'y mettre. Et c'est comme ça qu'il a démarré une carrière de cordonnier.
Et puis tout le monde avait l'air de l'apprécier.
Tout le monde l'appréciait.
Il s'est fait de nouveaux amis.
Voilà, il y avait plusieurs générations qui venaient dans son atelier. Il a lié des amitiés avec beaucoup de gens, des jeunes et des moins jeunes. Et tout le monde, jusqu'au point où il y avait un autre cordonnier dans le village, tout le monde le boudait parce qu'il était plus jeune que lui.
Oui,
parce que tout le monde pensait que
c'est une concurrence, vu son âge, un peu déloyale.
Voilà, pensant que son âge était un gage de professionnalisme. Donc tout le monde se regroupait chez lui, et chez lui, tous ces gens-là refaisaient le monde, on parlait de foot,
de
politique,
il y avait
du prix des légumes, de tout et de rien. Voilà, il s'était complètement habitué. Il s'était fait de nouveaux amis avec lesquels il allait à la mosquée le vendredi.
Une nouvelle vie.
Voilà, une nouvelle vie. Alors que bon.
Au début, il désespérait,
il
s'est habitué.
Oui, voilà. Il s'est enterré. Voilà.
On revient à notre jeune fille, au personnage principal de votre roman, Bouchra, alias Bouba. Alors elle fait son petit bonhomme de chemin, elle découvre les attraits de la ville, et notamment les boutiques de cosmétiques et de vêtements. Elle a jamais vu ça, elle est juste émerveillée. Page 53, le dos tourné pour ne pas attirer l'attention des vendeuses, j'appliquais avec délice sur mon visage une de ces crèmes ou fonds de teint testeurs, mis gracieusement à la disposition des clientes et je prenais du plaisir à me regarder le plus discrètement possible dans le miroir.
Oui, elle adorait, elle découvrait les cafés avec les gens assis en train de siroter leur café, des gens qui lisaient à l'ombre d'un arbre leur journal. Elle voyait les gens bien habillés et puis alors tous ces magasins avec une avalanche de robes que dans lesquelles elle se voyait mais malheureusement
mais elle n'avait pas les moyens.
Elle regardait les sacs à main, les chaussures, tout ce qui pouvait compléter, enjoliver les toilettes des femmes. Mais ce qui l'attirait le plus, c'était les cosmétiques et les parfums. Alors là, elle devenait folle à voir tout ça dans un magasin. Donc elle s'infiltrait discrètement dans les magasins pour aller tâter, sentir.
Utiliser les échantillons.
Utiliser les échantillons. Et puis après, elle se gardait bien de sortir de maquillée comme ça. Elle se passait des lingettes. Elle enlevait toute trace et elle repartait.
Voilà, elle s'offrait des petits moments de rêve, des petites parenthèses.
Voilà.
Rendait sa vie plus douce.
Voilà, elle était heureuse. Et elle s'était adaptée,
oui.
Parce que plus jeune, vu son âge, elle s'est adaptée beaucoup plus facilement à cette vie citadine.
Par ailleurs, le papa s'est habitué à cette nouvelle vie citadine, mais la maman aussi. Elle va finir par sortir de sa situation de marginalité grâce à une voisine de son quartier aussi.
Grâce à une voisine qui se demandait qui était venu à côté de chez elle et qu'elle ne voyait pas et qu'elle ne connaissait pas. Donc un beau matin, elle est venue taper à la porte. Et c'est la maman Khadija, donc la maman de Bouba, qui lui a ouvert la porte. Et de là, elles ont fait connaissance. Et la voisine l'a entraînée dans les marchés. C'était quelque chose de nouveau. Elle était heureuse. Elle pouvait acheter ses petites bricoles. Elle pouvait glaner ça et là du poisson, des herbes aromatiques. Elle y a pris goût. Elle y a pris goût et la voisine venait régulièrement la chercher. Puis elles partaient toutes les deux en tandem arpenter les rues de la ville.
Et puis, quelque temps après, la maman de Booba, donc Khadija, va encore avoir un bébé. Et suite à ce bébé-là, elle va avoir une sorte de burn-out, une dépression. Et là, vous décrivez très bien le monde des ruqyas, de la superstition aussi.
Oui, tout ça est dû... elle est tombée malade. Le papa était désemparé parce qu'il aimait sa femme. Même s'il n'y avait, il montrait pas, il le montrait pas, mais il aimait profondément. Déjà, il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Il y a cette forme de pudeur des
oui,
hommes
oui,
avant,
oui.
On n'affichait pas oui. leurs sentiments,
voilà.
qui n'appelaient pas leur femme
voilà.
par leur prénom aussi,
absolument.
En présence
oui, oui.
des autres membres de la famille.
Oui. Oui, donc il est complètement désemparé, déprimé de voir sa femme engloutie dans cette espèce de dépression, ne se changeant plus, ne s'arrangeant plus, parlant de façon incohérente, il est complètement dépassé. Il va voir sa sœur, il voit sa sœur Aldia, qui est une femme âgée, de très bons conseils, et lui dit il faut qu'on aille voir un psychiatre. Elle s'oppose absolument. Comment aller voir un psychiatre, lui faire avaler des produits chimiques à longueur de journée? Il n'en est pas question. J'ai une autre solution. Laquelle? C'est le Lorient. La Lorient.
Mm-hmm.
C'est l'emmener chez quelqu'un qui pourra dissiper ce mal-être qu'elle a. Et, bon, le père ne cautionne pas totalement l'idée parce que ça relève du charlatanisme et il n'y croit pas du tout. Donc il freine un petit peu, mais Aldia a beaucoup de caractère. C'est une femme qui sait ce qu'elle dit, qui sait se faire obéir. Et les voilà partis chez le
Rari.
Le Rari, qui est un monsieur imposant. Ils font 300 ou 400 kilomètres dans un vieux taco.
Voilà. Parce qu'il ne faut pas trop en dire, on ne va pas trop spoiler. Voilà, oui. Les lecteurs découvrir ce passage.
C'est une aventure.
C'est une grande aventure.
Oui.
On revient à Booba. Les journées de Booba sont ennuyeuses. Alors là, elles se ressemblent toutes. C'est chaque jour le même train-train quotidien, ménage, cuisine. Et elle dit « Jamais un sourire ou une parole réconfortante de mes parents. De quoi atténuer ma fatigue ?» Elle en a marre.
Elle en a marre. Elle n'a pas de sœur, donc elle endosse la totalité des travaux ménagers. Elle s'occupe de son petit frère. Il faut s'occuper de lui. Il faut le laver. Il y a la maison à entretenir. Il y avait trop de choses, a été dépassée. Donc, alors que c'était l'âge, elle était en pleine adolescence, elle rêvait de voyages, de rencontres, d'un tas de choses nouvelles. Quand elle avait les moyens, quand elle avait le temps lui permettait, elle se collait devant ce téléviseur pour essayer de s'imprégner du rêve de malsain distillé par les feuilletons étrangers. Mais il y avait quelque chose, il lui manquait. Elle avait besoin de s'exprimer, et c'est comme ça qu'elle allait chez sa tante.
Voilà, seul échappatoire à cette vie morne, à cette vie triste et
oui.
routinière, ce sont ces visites qu'elle entreprend chez sa tante Mounia, qui vit seule. Alors Mounia aussi, c'est un personnage. Donc, elle a vécu en Belgique. Au moment où vous décrivez l'histoire, bon, elle est veuve. Elle a épousé un étranger. Et elle-même, c'est une femme qui a une forte personnalité, qui a dû affronter toute sa famille pour épouser cet étranger.
Oui, elle était jeune, elle avait dû faire des ménages pour nourrir sa famille chez des colons à l'époque, et elle a croisé chez eux un appelé français du service militaire. Bon, vu sa condition, elle n'avait jamais fait attention à lui, mais lui, au fur et à mesure des visites, il avait remarqué en elle la fille discrète, gentille, bien élevé. Bon, il n'avait jamais osé faire le pas. Il était très attiré par elle, mais il n'avait jamais osé faire le pas. À la fin de son service militaire, il était reparti, mais son esprit était resté à Batna.
Il repensait toujours,
à cette
jeune fille.
Oui. Donc, il a décidé un beau jour de revenir et de faire sa déclaration d'amour. C'est ce qu'il fit. Il est revenu. Il lui a parlé. Et ça, c'est... Mounia a répondu positivement parce qu'elle aussi en pinçait un petit peu pour lui. Il était beau, elle en pinçait un petit peu pour lui, mais vu sa condition, elle n'avait jamais osé l'affronter. Donc, ils se marient, c'est une love story qui commence, mais il y avait le candidaton, c'était l'époque coloniale. Il fallait surtout pas approcher quelqu'un du service militaire. On était en plein marasme avec le colonialisme.
Donc, et un mariage mixte aussi.
Un mariage mixte posait énormément de problèmes. Mais elle était vouée à une punition extrême. Sa famille l'a recherchée pour la tuer. Donc, ils se sont arrangés. Les deux tourtereaux se sont arrangés pour fuir en catimini. Et il l'a ramenée chez lui en Belgique, où elle a vécu une très belle vie avec lui. Elle a appris à lire, à écrire, à conduire une voiture. Elle a voyagé. Elle a eu 3 enfants avec lui. Malheureusement.
Et puis, il est décédé. Elle est revenue. Donc,
elle est revenue 45 ans après. Elle est revenue 45 ans après.
En tout cas, Mounia apprécie beaucoup la compagnie de cette tata, de cette tante.
Oui.
Et ça lui permet aussi de sortir et de s'évader. Voilà. Et un jour, justement, sur son chemin, malheureusement, elle va croiser un jeune homme. Il dit s'appeler Adel. Il se présente comme un bachelier qui a fait des études de commerce et qui travaille dans une usine de stylos. Et ils vont prendre l'habitude de se retrouver, en secret évidemment, pour papoter.
Oui, pour papoter. Il est beau, il a une certaine dégaine. Il a une certaine dégaine. Il a les cheveux ébouriffés, peut-être à la mode. Et il a pas mal d'assurance. Donc, il a les chaussures très bien cirées. Donc, tout de quoi
la
séduire. Elle est épatée devant ce garçon. Et au fur et à mesure de leur rencontre, elle nourrit un certain sentiment pour lui. Et ils se retrouvent, ils discutent ensemble. Un jour, il pose un baiser furtif sur sa joue. Elle est enflammée, elle ne dort plus.
Parce que sa vie est vide, elle n'a personne.
Elle est morte,
donc elle s'accroche à ce Adel.
Voilà, et puis ça, c'est la période, c'est de l'adolescence.
C'est l'adolescence,
c'est
voilà,
les prémices.
Et elle est naïve aussi.
Voilà, absolument. Il y a eu des
non-dits. Il ne faut pas oublier
il y a eu des non-dits.
Elle n'a pas d'expérience dans la vie.
Voilà, absolument. Elle n'a pas eu il y a beaucoup de non-dits dans sa famille, donc elle s'est jetée dans cette amourette.
Elle n'a aucune idée de l'existence de ce genre de prédateur, car ça sera un prédateur.
Un prédateur.
Pour le moment,
très dangereux.
On ne sait pas.
Oui.
Bon, voilà. Et lui aussi, il décèle les fêlures qu'il y a en elle.
Les failles.
Les failles. Il sait qu'elle est faible.
C'est un manipuleur.
C'est un petit papillon fragile. Il va en profiter. Mais doucement, doucement. Il est très, très malin.
Oui.
Et elle dit qu'elle se confie à lui. Elle lui raconte tous les détails de sa vie. Et quand même, elle note que lui ne parle jamais de ses parents, de sa maison, de sa fratrie. Elle ne sait même pas où est-ce qu'il habite. Et voilà, mais elle est tellement naïve que, bon, elle note ça, mais
il est encore plus beau parce qu'il est mystérieux.
Voilà.
Il est entouré d'un voile de mystère qui lui plaît.
Plaît à elle. Elle assimile ça au mystère.
Voilà, c'est très bien qu'il en parle ou pas. C'est son affaire. Mais ça le rend encore plus attirant pour elle, à ses yeux.
Et elle dit, page 113, « Il était devenu, au gré de nos rencontres, mon confident, mon unique ami, que je souhaitais garder innocemment pour moi et pour toujours. »
Oui. Elle lui racontait absolument tout. Elle ne lui cachait rien, alors que lui restait muet. Il écoutait, il enregistrait. Et il l'a jugé.
Voilà, il fomentait en tout cas son petit plan
machiavélique.
Oui,
elle était vulnérable, c'était la bonne proie.
C'était la bonne proie. Voilà. La maladie du père de Booba, on en parle aussi. Ce papa, qu'elle chérissait tant, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et il va décéder dans des circonstances tragiques. Voilà, il avait échappé à la vigilance de sa famille. Il était sorti de la maison et le drame est arrivé.
Alors qu'il était surveillé nuit et jour, oui. Que les portes étaient fermées à clé. Parce qu'il déambulait partout, il savait plus où il était, il était désorienté. Donc Khadija et Booba avaient décidé de l'enfermer à clé pendant que ça leur permettait d'aller faire leurs travaux chacune de leur côté. Mais un jour, le fils aîné, qui avait repris le terrain du papa à la montagne, venait régulièrement pour ramener les fruits qu'il avait récoltés, qu'il avait semés, récoltés, et leur apportait les potins. Pour entretenir un petit peu leur curiosité, les potins qui se passaient dans leur famille. Et en repartant, il avait été voir son ami à côté dans le quartier voisin. Il avait oublié de fermer la porte.
Oui.
Et le papa
a pris la clé des champs. Et
a pris la clé des champs.
Et il s'est fait heurter par...
Voilà, sans discernement, il est sorti dans la rue et...
Oui. Et ça va peser très lourd dans la famille. Ils vont tous culpabiliser d'avoir laissé cette porte ouverte aussi.
Même s'ils ne le disaient pas à haute voix, c'était inaudible. Mais chacun culpabilisait à sa façon d'avoir été inconscient, d'avoir laissé l'un la porte ouverte, l'autre n'avoir pas suffisamment entendu le bruit. Ça les a rendus tous absolument malades et craintif quant à l'avenir.
Oui, en tout cas, après le décès du père, les choses changent à la maison. Les frères de Booba exercent leur autorité sur elle avec plus de force aussi. Ses moindres faits et gestes sont surveillés. Elle devient de plus en plus fragile, en fait.
Oui, sa façon de s'habiller, sa façon de se coiffer. Son frère l'a giflé un jour parce qu'elle avait lâché ses cheveux, dont elle était très fière. Et elle était rabrouée par ses frères. Et la maman voyait tout, mais elle les avait investis de la responsabilité d'une autorité qu'elle venait de perdre. Elle voulait pas, elle pensait que à travers eux, elle ne perdrait jamais la respectabilité que le papa avait instaurée avant sa mort. Mais les frères ont un petit peu exagéré. Et elle a été devenue esclave de tout le monde. Même le dernier né qu'elle avait chéri, qu'elle avait conduit à l'école, qu'elle avait endormi, qu'elle avait nourri, qu'elle avait, même lui avait pris exemple sur ses frères et il a breuvé de paroles désobligeantes à longueur de journée.
Et c'est ça qui va faire sa fragilité.
Voilà.
C'est ça qui va faire qu'elle va se sentir encore plus mal et qu'elle va prendre une mauvaise décision parce que Hedel, il est là, il la guette et un jour il vient lui annoncer tout de go qu'il s'installe à Alger pour poursuivre ses études et elle est paniquée, elle se dit ah là 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 là, il va partir, je vais rester seule, c'était mon seul rayon de soleil, mais il lui propose de l'accompagner à Alger. Elle pourrait s'inscrire dans un centre de formation professionnelle où elle pourrait peut-être apprendre à la coiffure. Et pas d'inquiétude à se faire puisqu'il a une tante qui pourra l'héberger.
Oui, une tante qui a un appartement spacieux, qui n'a pas d'enfant et qui est vraiment volontaire à la recevoir.
Il la rassure, lui dit, je lui en ai parlé, à Badala, il va te recevoir, t'inquiète, ça va bien se passer.
Dès que tu arriveras, je t'emmènerai dans le centre professionnel pour apprendre, pour t'inscrire au cours de coiffure, il n'y a aucun souci. Et elle s'imaginait déjà revenir 6 mois après avec son diplôme en poche, ouvrir un salon de coiffure, coiffer les femmes et surtout gagner de l'argent.
Gagner de l'argent, avoir un métier.
Avoir un métier, gagner de l'argent. Et puis satisfaire sa maman qui veut aller au lieu saint de l'islam. Donc elle pourra lui payer ce voyage qui l'a fait rêver et qui lui paraît inaccessible. Donc tout ça, c'était magnifique. Et puis en plus, ça, elle partait avec quelqu'un d'ambitieux qui voulait aussi faire des études, qui voulait améliorer sa situation. Donc tout était bien, c'était parfait. Elle irait à Alger. Elle le suivrait.
Elle le suivrait jusqu'en enfer. Parce qu'elle avait confiance et surtout, elle ne voulait pas rester seule. Il allait donc partir. Écrivez-vous, impossible de retenir mes larmes, tant ma vie m'a semblé subitement vide, sans relief. J'avais le cœur en miettes. C'est dur. Elle va fuguer, elle va quitter la maison aux aurores pour rejoindre son futur bourreau. Voilà, il faut le dire, ça, c'est son futur bourreau, sur le quai de la gare de Batna. Page 151, je finis par sortir dans l'obscurité, à petits pas, sans faire de bruit, à milieu d'imaginer que la porte que je venais de tirer derrière moi allait se fermer pour toujours.
Voilà, donc elle le suit, le cœur battant, elle est heureuse, elle va pouvoir partir avec celui qu'elle chérit intérieurement. Ils prennent le train, c'était la première fois qu'elle partait en train, elle était toute étonnée de voir les gens, le bruit, le chef de gare qui siffle, tout ça. Donc ils partent côte à côte dans ce train et ils font le voyage.
Elle sent un vent de liberté,
oui,
l'odeur de la liberté.
C'était l'odeur de la liberté ce jour-là. C'était l'odeur de la liberté qu'elle sentait. Elle mettait elle avait tout laissé derrière elle. Elle pensait qu'elle partait vers une nouvelle vie meilleure. Et puis elle était avec celui qu'elle aimait intérieurement, pour qui elle avait de très forts sentiments.
Et elle est loin de se douter, en fait, qu'elle s'apprête à vivre un cauchemar et que les années de sérénité, de bonheur étaient derrière elle, en fait.
Oui.
Cette vie qu'elle quittait, qu'elle croyait être cauchemardesque. Non, c'était l'havre de paix. Elle allait, vivre
un cauchemar. Parce qu'elle allait découvrir des choses innommables.
Elle va tomber dans la prostitution. On va pas en dire davantage. En fait, elle va tomber dans un guet-apens.
Absolument. Voilà. Un guet-apens innommable. Innommable pour une jeune fille de son âge et une fille de sa condition, qui était pure, saine et qui rêvait à beaucoup de choses.
On va vous laisser, amis lecteurs, découvrir la suite de cette histoire. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais voilà, c'est une histoire vraie. N'est-ce pas, chère Bajasari? Vous avez rencontré Bouba et elle vous a raconté son histoire.
Oui. Et son histoire m'a tellement touchée que j'ai voulu la transcrire. J'ai voulu être le plus fidèle à son récit, et qui est un message pour toutes nos adolescentes. Un message malheureusement où il faut se méfier de méfiance. Il faut se méfier parce que sous des abords très qui paraissent peut-être sains, on peut découvrir
un monstre
derrière et qui peut entraîner très loin jusqu'à des choses impossibles à envisager.
Il y a eu beaucoup de boobas dans notre société et dans d'autres sociétés.
Oui, beaucoup de boobas.
Oui.
Donc c'est pour ça que...
C'est elle le pantin rêveur, hein?
Oui.
Le pantin, parce qu'elle est manipulée dans tous les sens.
Elle a été manipulée, elle a été considérée comme un pantin. Mais malgré tout, elle avait des rêves qui ont été freinés par des gens, par la malveillance de certaines personnes.
Et peut-être aussi freinée par sa propre famille. Vous imaginez, Bouba, si elle avait pu faire des études? Elle aurait été quelqu'un d'autre.
Elle aurait pu rebondir très facilement. Elle était intelligente. Elle avait des rêves aussi. Elle avait des ambitions. Elle voulait aller à l'école. Elle voulait aller loin.
Mais c'est un message aussi aux parents.
Oui.
Qu'on peut délivrer, là.
Oui, voilà, c'est ça. De ne pas freiner les rêves des enfants.
Ne pas freiner les rêves de vos enfants.
Voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose en préparation, un autre livre, le Bajasari, en ce qui vous concerne?
Oui. Un premier livre qui est déjà déposé chez un éditeur qui doit être édité prochainement. Et plein d'autres choses sous le coude qui attendent un éventuel éditeur.
Comment vous avez pensé à vous lancer dans l'écriture? Alors, vous êtes médecin, vous êtes à la retraite. Comment est venu ce déclic d'écriture?
C'est les aléas de la vie. Je n'ai jamais écrit de ma vie, à part les poèmes d'amour qu'on écrit à l'adolescence, quand on découvre la Martine, donc, qui restait sur ma table, qui finissait dans la poubelle. Mais là, j'ai traversé toute une vie, toute une carrière riche. Riche aussi, et les aléas de la vie ont fait qu'à un moment donné, j'ai dû interrompre cette carrière parce que j'ai dû accompagner mon mari dans une maladie terrible. Donc ça a freiné toutes mes activités. Je me suis consacrée à l'accompagnement de mon mari, et là, j'ai ressenti un très grand vide, un vide extraordinaire qui m'a poussée à écrire. J'ai subitement senti le besoin de cracher mes tripes, de cracher sur le papier tout ce que je ressentais, mes incertitudes, ma souffrance, mes douleurs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un crayon et une feuille de papier et j'ai commencé à gratter. Et c'est comme ça que...
Alors vous ne tapez pas sur l'ordinateur, vous êtes de l'ancienne école.
Je suis de l'ancienne école.
Vous écrivez avec un crayon en plus.
J'écris.
Pour gommer.
J'écris, je rature, je tourne de l'autre côté et je rajoute, je mets une flèche en rouge. Et
voilà, un manuscrit.
Voilà, vraiment le manuscrit au sens propre du mot. Voilà.
Parfait. Donc, un roman qu'on recommande à nos lecteurs. Il est dans les bonnes librairies, Le Pantin Rêveur. Est-ce que vous êtes prête pour mon questionnaire? C'est le questionnaire de Proust.
Oui.
Ben, déjà, ça allait. Oui. Alors, quelle est la qualité que vous préférez chez un homme?
De transmettre des valeurs morales, d'avoir des valeurs morales.
Quel est le principal trait de votre caractère?
L'altruisme et l'écoute.
Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis?
La sincérité.
Votre principal défaut?
La ponctualité. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais ça m'a joué des tours, la ponctualité.
Pourquoi ça vous a joué des tours?
Parce que j'ai perdu des amis, j'ai perdu...
Le fait que les personnes ne soient pas là,
ne respectent pas l'heure.
Vous partez alors, vous donnez un petit quart d'heure et...
Voilà, et je m'en vais, et la fois d'après, je crée des problèmes, je crie, je...
Donc, il ne faut pas poser de lapin à Madame El-Bajassari, sinon de la liste. Quelle est votre occupation préférée?
Je fais du dessin, je fais de la peinture.
Quel est votre rêve de bonheur?
Que tous les gens qui peuplent cette terre soient heureux et qu'ils aient ce qu'ils veulent au bout de la main.
La fleur que vous aimez?
La rose.
L'oiseau que vous préférez?
Le moineau.
Comment aimeriez-vous mourir?
J'aimerais mourir dans mon lit, couché, avec dans une main la main de mon fils et dans l'autre la main de ma fille.
Quel est votre état d'esprit actuel? En arrivant au studio, vous aviez vraiment le trac. Maintenant, comment vous êtes?
Je me sens plus détendue. Parce que celle qui m'a interviewée, qui était en face de moi, était charmante.
Oh merci, ça me rassure. Voilà. Quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence? Que vous pardonnez? Mis à part que vous n'aimez pas qu'on vous fasse attendre quand vous avez un rendez-vous. Mais les fautes que vous pardonnez facilement?
Pas le mensonge, un écart de langage pas trop violent, pas... Voilà.
Quelle est votre devise dans la vie?
Plus étant toi.
Plus étant toi.
Je fais référence à Dieu.
D'accord. Et voici mes questions à moi. Quel métier rêviez-vous de faire quand vous étiez ado?
Alors là, c'est un truc complètement dingue. Parce que je rêvais de chanter, le chant lyrique. Je rêvais, à tort, de chanter comme la Calas ou comme...
Alors, il y avait des petits essais à la maison, comme ça?
Oui, on m'entendait pas. On m'entendait pas. Non, je faisais pas de bruit à la maison. Je parlais pas beaucoup, mais je faisais des vocalises.
Ça va, les voisins, ils se sont pas trop plaints?
On nous habitue à une ferme. Donc ça dérangeait pas. Ça dérangeait pas trop, mais je m'essayais à des vocalises à longueur de journée.
Avec quelle personnalité aimeriez-vous être bloqué dans un ascenseur? Personnalité vivante ou morte?
avec Gandhi.
Pour Mahatma Gandhi.
Oui, pour qu'il m'instille un petit peu, le temps de notre confinement dans l'ascenseur, qu'il m'instille un petit peu de philosophie.
Quel est votre animal préféré ?
Oh, je j'aime pas trop les amis. Mes enfants m'ont imposé un chat, mais j'aime pas trop parce qu'il se colle partout, il grimpe partout, il grimpe même dans mon lit, sur mes fauteuils, j'ai des poils partout. Mais je supporte.
Vous gagnez au loto, je vous le souhaite. Que faites-vous de tout cet argent ?
Oh, j'en donnerai une partie dans les maisons de retraite de vieux, les Diyar Rahma. Parce que c'est des gens qui ont besoin.
Oui, et vous en parlez d'ailleurs
voilà,
dans votre
roman.
Voilà,
c'est des gens qui ont besoin, oui, voilà.
Où aimeriez-vous passer vos prochaines vacances ?
Oh là là, comme j'ai un petit coin encore, un tout petit peu de vitalité, j'aurais aimé assister au Brésil, au carnaval.
De Rio ?
De Rio. J'aurais aimé...
Danser la samba.
Oui, maintenant, j'ai plus la possibilité de me déhancher, mais voir le spectacle.
Chatoyant.
Parce que j'aime la danse et j'aime la musique latino.
Donc, vous ne dansez jamais sur ces rythmes ?
Si, j'adore danser. Il m'arrive de danser toute seule dans ma cuisine.
Ah ben, c'est ce qu'il faut faire. Justement, on va rester dans votre cuisine. Vous nous invitez à manger, ma réalisatrice et moi-même. Et qu'est-ce que vous allez nous préparer ?
Alors là, je sais pas, c'est un plat qui plaît pas à tout le monde, mais je vais essayer de vous le faire découvrir. La morilla de l'Est.
Ah oui, je connais.
Vous connaissez ?
Bon, mais j'aime pas trop.
Voilà, c'est ça. Mais je vais essayer de vous la faire aimer. Vous et votre réalisatrice. Je vous promets.
Voilà.
La morilla en poudre, hein ?
En poudre.
Qui demande quand même 6 heures de préparation.
Waouh. Voilà, Elbajassari, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci d'être venu nous parler de votre tout premier roman, Le Pantin Rêveur, qui est disponible dans les bonnes librairies et que je recommande à nos amis lecteurs et auditeurs. Et merci à Hind Janhia, qui est à la réalisation. Merci à vous, mes amis.
Ce fut un agréable moment.
Eh bien, ça l'a été aussi pour moi. Bye bye.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of